La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le dramaturge Bernard-Marie Coltès a très vite acquis un statut de classique contemporain. Il est l'un des auteurs français les plus joués dans le monde et de nombreux jeunes comédiens, tout comme beaucoup de metteurs en scène, apprécient son français à la fois classique et urbain, sa langue moderne mais riche d'une rhétorique qui semble venir de plus loin, et sa peinture de la dérive, cette impossibilité de s'ancrer dans une vie un tant soit peu normée. Tout cela, nous commencerons à le développer demain avec Arnaud Maizetti, qui a publié une biographie du dramaturge aux éditions de Minuit, et avec qui nous vous proposerons le parcours de l'œuvre. Et puis, nous irons plus loin tout au long de la semaine dans l'analyse de ses textes, avec mercredi, le regard de Christophe Bidan, qui l'a étudié et qui l'a même mis en scène. Et enfin, avec Florence Bernard, jeudi, qui nous parlera notamment de ce qu'elle appelle la poétique des contraires chez Bernard-Marie Coltès. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour raconter sa vie, nous sommes en votre compagnie, Brigitte Salino. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes critique de théâtre au journal Le Monde. Vous avez publié la première biographie de Coltès. C'était en 2009 aux éditions Stock. On célébrait alors le 20e anniversaire de sa mort. C'était une année où il y avait eu d'ailleurs beaucoup de manifestations culturelles. Il y avait eu une intégrale Coltès à Metz, la ville où il a grandi. Il y avait eu des lectures non seulement de ses pièces qui avaient été mises en scène, mais aussi de ses lettres qui venaient de paraître aux éditions de Minuit, son éditeur. Et ces lettres, justement, je voudrais commencer par là parce que vous les citez assez abondamment dans votre biographie, Brigitte Salino, notamment celles qu'il a écrites à sa mère. C'est peut-être les plus belles.
En tout cas, l'histoire avec sa mère est essentielle. Et il dit à sa mère, il s'aimait passionnément.
Trop ?
Ça, j'en sais rien.
Vous m'avez dit en antenne que vous n'avez pas d'avis sur la vie de Coltès, que vous vouliez juste donner des faits.
Non, je peux pas. Je vois pas pourquoi j'aurais un avis sur la vie de Coltès. J'ai travaillé pendant 7 ans pour écrire cette biographie en rencontrant des gens. Et ce qui était particulier et intéressant, c'est que beaucoup étaient encore vivants. Évidemment, parce que quand Coltès meurt, il a 41 ans. Et donc, beaucoup étaient vivants. Donc, dans ce cas-là, on est en quelque sorte l'écrivain public, d'une certaine manière, de mémoire du moment. Donc, c'est très différent. Et puis, par ailleurs, je suis pas sûre que ça m'intéresse d'avoir un avis sur sa vie. Je suis même sûre que ça m'intéresse pas d'en avoir un. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il devient Bernard-Marie Coltès.
Alors, est-ce que dans ce qui fait qu'il devient Bernard-Marie Coltès, il y a beaucoup sa mère ?
Il y a beaucoup sa mère, parce que sa mère l'a soutenu. Voilà. Ce qui est essentiel dans sa vie, c'est que c'est quelqu'un qui décide à 20 ans qu'il va écrire, il va ne faire que ça. Et non seulement il veut écrire, mais il veut se démarquer. Et il dit à sa mère qu'il comprend, elle n'est pas la seule, mais elle le comprend, que, il est hors de question que je passe 8 heures par jour de ma vie à travailler pour un patron. Je me donne le temps et je me donne cet objectif. Et soit je réussis, soit je rate. Il a réussi.
Chère maman, j'ai bien reçu ton article sur les 20 ans. Tu sembles avoir une vue encore plus pessimiste que moi de la vie. Pourquoi vouloir à tout prix dire que cet âge est la période la plus laide d'une vie ? C'est un âge peut-être de difficultés, certes, d'indécision, Mais personnellement, je reste persuadé que la vie est ce que l'on en fait. Et qu'il n'est pas d'âge qui soit particulièrement malheureux, si ce n'est celui où l'on abandonne la partie, et on peut l'abandonner à tout âge. Je trouverai la vie laide le jour où je me mettrai assis et ne voudrai plus me relever. Pour le moment, pour moi, 20 ans, c'est l'âge d'une grande décision. C'est l'âge où je risque ma vie, mon avenir, mon âme, tout, dans l'espoir d'obtenir plus. C'est l'âge où je travaille sans filet. C'est terrible, bien sûr, mais n'est-ce pas cela, vivre ? Il me semble que je ne pourrais pas dire plus tard d'un air désabusé « Ah, si j'avais 20 ans !» Je ne crois pas non plus que je pourrais gémir en disant « 20 ans, une bien triste période !» Je ne souhaite qu'une chose, c'est d'être capable toute ma vie de prendre des risques et de ne jamais vouloir m'arrêter en chemin. N'est-ce pas cela, avoir toujours 20 ans ?
Par Rodolphe Congé. Cette lettre programmatique sur la vie qui s'ouvre de Bernard-Marie Koltès, il l'envoie à sa mère. Ça n'est quand même pas rien. Il y a un rapport presque d'égalité. En tout cas, il écrit à quelqu'un en qui, visiblement, il a confiance. Est-ce que c'est le cas ?
Oui. Il a confiance. Confiance, j'ai jamais vu ce mot écrit par Koltès, ou j'ai jamais entendu dire par rapport à sa mère. Toujours entendu dire, il s'aimait. Voilà, c'était le dernier de ses trois fils. Et c'était Bernard, parce que son prénom, c'est Bernard. C'était
son,
probablement
son prénom
le
d'écrivain,
fils.
C'est Bernard-Marie.
Oui. Ça, c'est un choix qu'il fait. Mais... c'était peut-être le fils pour lequel elle avait une tendresse particulière, en tout cas un lien très privilégié avec sa mère.
Alors il a traversé son temps comme un météore, écrivez-vous, un 41 ans seulement, entre 1948 et 1989. Il a laissé une œuvre assez brève également, pour l'essentiel 6 pièces, on peut les citer, parce que les titres sont très beaux aussi. La nuit juste avant les forêts, Combat de nègres et de chiens, Quai Ouest, Dans la solitude des champs de coton, Le retour au désert et Roberto Succo. On pourrait ajouter Salinger, mais c'est un texte qui a été édité après la mort seulement de Bernard-Marie Koltès. Il faut expliquer là que s'il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est aussi parce que lui-même détruisait beaucoup ses manuscrits, Brigitte Salino.
Alors là, il y a les pièces que vous avez citées, mais il y a toutes les pièces qu'il a écrites avant. Bernard-Marie Koltès considérait que sa première pièce, vraiment, c'était La nuit juste avant les forêts. Mais il faut pas oublier que quand il l'écrit, ça fait déjà 10 ans qu'il travaille et il a écrit plusieurs pièces parce que à ce moment-là, il est né à Metz, mais à ce moment-là, il est à Strasbourg. Où il passe très brièvement par l'école de journalisme, il reste pas, et il fait une sorte de casse. C'était un brigand, Koltès. Un casse symbolique, au sens où il arrive à entrer à l'école du TNS grâce au soutien d'Hubert Gignoux, ouais. Et où il rentre comme ça, et en plus, il peut faire exactement ce qu'il veut. C'est un cas unique dans l'histoire de l'école. Parce que lui, il veut travailler avec ses amis, avec qui il a fondé une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Quai. Et il a écrit plusieurs pièces, avec ses amis. On a une chance, c'est qu'il y avait quelqu'un à Radio France qui appelait Jacques Taroni, qui les a quasiment toutes enregistrées.
Qui a eu confiance très très tôt en le talent de ce très jeune homme.
Oui, il était à Strasbourg et il a enregistré les pièces. Et Salinger, vous parliez de Salinger, c'est un cas très particulier parce que c'est une commande, c'est pas une pièce. C'est Bruno Beuglin qui était à Lyon, qui avait un théâtre, l'Eldorado, magnifique et dévasté, et qui lui avait commandé parce que sa propre troupe avait une passion pour Salinger. Et il lui avait commandé un texte d'après l'œuvre de Salinger. Donc ça, c'est
d'après
pas une pièce.
La Trappe-cœur en particulier.
En particulier.
Bon, cela dit, Salinger, c'est quand même beaucoup La Trappe-cœur.
Oui, il y avait d'autres textes, mais il y avait Seymour, il y en avait d'autres. Ouais. Mais Et mais donc ces pièces-là, il les monte avec sa compagnie. Il les détruit la plupart. Il les détruit, comme ensuite il détruira les manuscrits parce qu'il travaillait énormément. Il y avait plusieurs moutures. Avant d'écrire chaque pièce, il aurait pu écrire un roman sur chaque personnage. Et il y avait les moutures différentes qui faisaient lire d'abord à Claude Stratz. Et Claude Stratz a toujours regretté, parce qu'il disait à Coltès, il les annotait, puis il lui disait « Bon Bernard, je te les rends ». Et puis Bernard-Marie Coltès rentrait chez lui, il les détruisait. Et Stratz a toujours regretté que toutes ces étapes intermédiaires n'aient pas été conservées. Mais c'est pour dire que c'est quelqu'un aussi qui... on voit à un moment, il met fin à l'histoire du quai, il quitte Strasbourg, il vient à Paris, il devient Bernard-Marie Coltès. Et d'une certaine manière, ce qui n'a pas été si simple pour ses amis de jeunesse, de sa troupe, certains, c'est comme s'il effaçait un peu cette période-là. Mais ça a été une période essentielle où il a appris à écrire.
Mais alors c'est quand même quelqu'un d'extrêmement secret parce que parfois il allait jusqu'à demander à ses amis « Ah mais tu n'aurais pas tel manuscrit de moi que je t'ai prêté il y a quelque temps ?» Donc l'ami lui rend pensant qu'il en a besoin pour travailler et puis lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il les jette au feu à Pralognan dans le chalet de ses parents à la montagne.
Oui. Parce qu'il considérait que ça n'avait pas d'intérêt. Et voilà, donc il y a... Mais je vous dis, par chance, même s'il n'y a que Salinger qui a été publié, on a les autres. On a les autres, on peut les écouter.
Mais est-ce que ça n'a pas été un peu difficile pour la biographe que vous êtes de travailler sur un garçon, un jeune homme, puis un homme jeune, aussi secret ?
C'est tout l'intérêt.
Mais c'est la difficulté quand même aussi que vous avez choisie.
Vous savez, c'est pas parce que les gens parlent qu'ils disent quelque chose. Il y a des façons d'être, des façons de vivre qui sont beaucoup plus parlantes que quelqu'un qui serait en apparence pas secret. Mmh. On le sait. Et donc, effectivement, il était mort. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, de son vivant. Mais
vous avez même dédicacé un petit livre que vous avez là sous les yeux. Vous l'avez emmené aujourd'hui.
Ben oui, c'est très touchant parce que c'est la nuit juste avant les forêts. C'est comme beaucoup de gens. C'est quand je l'ai vu à l'Odéon que j'ai découvert Coltès. Et moi, je commençais dans le métier. Puis Bernard-Marie Coltès m'a simplement mis mon nom, il l'a dédicacé. Mais effectivement, ce sont des choses qui, avec le temps, prennent une importance affective aussi. Mmh. Et donc, pour la question du secret, ses amis aussi le disent, même les très proches. Il y avait toujours une part de Bernard, comme ils disent, qu'on ne pouvait pas connaître. Il y a quelque chose qui est très révélateur, c'est qu'il y a une période de sa vie à Strasbourg, il est encore jeune, il fait une tentative de suicide. Et sa mère a un pressentiment, elle dit à une de ses amies, parce qu'il y avait deux appartements côte à côte, « Bernard ne me répond pas, va voir. »
Place de Breuil.
Voilà, il avait tourné son lit de façon à voir la cathédrale de Strasbourg. Et donc, Bernard va à l'hôpital et il sort, enfin voilà. Et il arrive chez son ami, toc, et il dit bonjour comme si rien ne s'était passé. Mmh. Et l'ami elle-même ne pose pas de questions. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui font qu'on ne leur pose pas de questions. Que c'est une sorte de contrat, même dans des amitiés très très fidèles, où si quelqu'un veut parler, ce qui était le cas de Bernard-Marie Coltès, il parle, mais... Ça passait par autre chose.
Donc il y a le secret parce que lui n'aimait pas se livrer. Il y a aussi le secret qui n'en est pas un sur sa période, par exemple, de militantisme au Parti communiste. Vous avez essayé de retrouver un petit peu des dossiers, mais il ne reste rien finalement de son passage et de ses années politiques.
Mais il reste des témoignages, si, parce que il y a les militants de Beauzel. Pas loin de Pralognan, et il était inscrit à cette cellule. Et puis, il y a le témoignage aussi d'Hubert Gignoux. Alors, quand on fait des recherches, c'est vrai qu'à ce moment-là, le PCF ne faisait pas une recension au cas par cas de tous les militants. Mais on a le numéro de sa carte. Et c'est vrai qu'il est resté 2 ans. Et que ça avait du sens pour lui. Ça avait vraiment du sens.
Ouais, seule chose qui m'a, dont je crois qu'elle m'a frappé à Metz, c'était au moment de la guerre d'Algérie, l'arrivée de Massu. C'est vraiment la seule chose. Le reste est une banalité consternante. Et comme mon collège était en plein milieu du quartier arabe.
Ah, déjà.
En plein milieu de ça, peut-être. Oui. pendant la guerre d'Algérie, où on faisait exploser les cafés arabes, tout ça, ce quartier était fliqué jusqu'à l'os. On nous conduisait littéralement jusqu'à la porte du collège, parce que c'était un collège bourgeois.
Vous étiez fils de bourgeois, vous ?
D'officiers, quoi. La bourgeoisie militaire. Ce qui n'est pas une bourgeoisie riche.
Non, c'est une bourgeoisie itinérante ou... Je veux dire, votre père a...
Oui, mais nous, on n'a pas voyagé. Ça, je le regrette vraiment. C'est-à-dire, ma mère est toujours restée à Metz. Moi, je regrette qu'on ne l'ait pas suivi en Indochine, qu'on ne l'ait pas suivi en Algérie.
Quand votre père a voyagé, ben, c'est
oui.
ça
ben,
votre
oui,
père et que, vous, vous ne l'avez pas suivi.
Mais non, alors, je n'ai pas connu mon père. Je l'ai connu beaucoup plus tard. Je l'ai compris beaucoup, beaucoup plus tard.
Vous l'avez
connu trop tard.
À quel âge ?
Je sais pas, il a débarqué chez nous en revenant d'Indochine, j'en parle pas parce que c'était terrible. Je hurlais quand il est arrivé, j'ai dit qui c'est ce monsieur qui s'installe chez nous. Et puis quand il est revenu d'Algérie, j'étais donc plus grand et on s'est engueulé tout le temps, c'était évident. Et qu'est-ce que vous voulez, j'étais un petit merdeux là qui avait pas quitté sa ville, lui il avait eu des expériences mais dont je me rends compte maintenant de ce qu'elles peuvent être. Et on s'est engueulé. Et puis à 20 ans, j'ai commencé un peu
à comprendre.
Ouais, un peu. Puis maintenant, je comprends. Alors, nom de Dieu, je regrette vraiment.
Mais qu'est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez
la
carrière de votre
qu'on
père.
L'a fait chier, mon père. On l'a fait chier. Il revenait d'Indochine. Vous pouvez imaginer ce qu'il avait vécu en Indochine.
Oui.
Les gens qui, les militaires qui reviennent du Vietnam, ils sont foutus. La vie. Mon père arrive, il trouve une femme. Rougissante d'émotion avec 3 marmots dans les mains comment voulez-vous qu'il puisse admettre ça? Enfin, comment voulez-vous qu'il se rebranche là-dessus?
Entretien avec Lucien Hatoun en 1988. À l'adolescence, c'est donc la guerre entre Bernard-Marie Koltès et son père, Brigitte Salino.
Oui, comme beaucoup d'adolescents, puis comme il le dit dans cet entretien avec Lucien Hatoun, pour aussi les raisons particulières de l'histoire de son père. Et politiquement, par exemple, pour son père... Ça a été probablement plus difficile d'accepter qu'il ait été au PCF que son homosexualité. Dans l'armée, on sait ce que c'est que l'homosexualité. Mais le père est quelqu'un qui était aussi le combat de sa vie, combattre le communisme, enfin schématiquement. Mais à la fin, à la toute fin, il y a une dernière lettre à son père. Une dernière carte où lui écrit « Où en es-tu de ta lecture de Marx ?»
Parce qu'il avait accepté finalement de relire Marx, de lire Marx pour son fils.
Oui, mais ils n'ont pas eu le temps de faire ce chemin parce que le père est mort jeune. Mmh. Et voilà, donc il n'a pas eu le temps de faire ce chemin de la discussion, de la réconciliation véritable avec le père.
Mais c'est un peu une des questions que vous posez dans votre biographie de manière sous-jacente, Brigitte Salino, c'est comment est-ce que ce garçon d'une famille très pratiquante, catholique, élevé dans ces milieux-là, milieu militaire aussi, père et mère aussi probablement de droite, lui écrit Roberto Succo, une pièce sur... un assassin, il écrit des pièces sur le deal, et c'est aussi cette trajectoire qui vous interroge quand même. Est-ce que c'est une réaction contre, ou est-ce que c'est trop facile de l'analyser comme ça ?
Je pense que c'est le trajet d'une vie. Il le disait, là, on l'a entendu, quand il parle du collège, c'était le collège Saint-Clément, qui était très célèbre, qui était dans le quartier du Pontifroid, à Metz, qui était un quartier interlope, où effectivement, pendant la guerre d'Algérie, Des cafés arabes ont sauté. Mais lui, déjà à ce moment-là, ça l'attirait beaucoup, les cafés arabes. Et il y allait avec certains de ses copains. Et il dit que probablement ça a été une des découvertes aussi de l'interdit, de l'érotisme masculin, parce qu'on parlait comme ça à cette époque-là. Et puis, il y a toujours eu l'attrait de l'autre. Déjà, quand il est tout petit, sa mère, c'est une famille catholique, donc elle a un frère qui est missionnaire en Afrique, et elle va rendre visite à son frère. Et c'est lui-même qui lui décrit, il est resté à Metz et il lui décrit l'Afrique. Il a envie. Il la décrit comme un enfant, mais c'est très très beau comme il le décrit, comme il l'a décrit. Et ensuite, son premier grand voyage, effectivement, ce sera en Afrique, au Nigeria. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un attrait pour l'autre, qui n'est pas complètement... C'est pas si loin que ça de sa famille. C'est pas des gens bornés, c'est pas des gens incultes, c'est pas des gens d'extrême droite. C'est une famille française avec un père militaire dans l'après-guerre. C'est cette France-là. Et lui, il fait partie de cette génération qui naît après la guerre et qui va aussi aller vers le monde.
Et qui va rompre avec sa famille, ou à tout le moins qui, à un moment donné, s'éloigner, peut-être pas de sa mère, comme on l'a vu, mais il y a cette volonté quand même de se libérer de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans son théâtre une volonté de montrer la coupure avec l'enfance, la coupure avec la famille ?
Mais moi, je pense pas qu'il y ait eu une rupture avec la famille. Là, quand on parle, je pense avec ses amis, j'ai envie qu'on entende leurs noms. Elisabeth Méran, Madeleine Camparo, la première, et c'est elle aussi qui sera avec lui, la dernière, lui, Bichette, et certains autres. Eux savent très bien parler de cette histoire. Je pense pas qu'il y ait eu une rupture avec la famille. Vous avez dans une famille quelqu'un qui a un caractère particulier, surtout une volonté qui se forge à la fois dans son milieu, dans son école, et il va se donner les moyens ensuite de lui donner toute son amplitude. Mais beaucoup de choses se jouent aussi pendant l'enfance et il y a peu de ruptures.
Alors vous avez raconté, Brigitte Salino, à l'instant, comment finalement c'est plus la question politique qui pouvait poser problème et que c'est pas la question de la sexualité de Bernard-Marie Coltès qui gênait véritablement ses parents. Parlons-en un petit peu de l'homosexualité de Bernard-Marie Coltès, parce que lui n'en parlait pas. Comment considérait-il cela ? Est-ce que pour lui, c'était une part de son identité ? Ou est-ce qu'au contraire, il ne considérait pas qu'il devait être regardé comme un homosexuel et que finalement, ça n'avait pas d'importance ni d'intérêt que de mentionner ce fait-là ?
Ça avait de l'importance et de l'intérêt pour lui. Et c'était comme le reste de sa vie. Quand vous parlez du secret, par exemple, avec Patrick Chéreau, bon, ils passaient beaucoup de soirées ensemble, ils dînaient, et à un moment, ils se séparaient, et là, Coltès commençait ses nuits, ce qu'il appelait l'appel de la forêt.
Oui. Et Chéreau disait que ses nuits étaient particulièrement agitées, enfin, il l'a dit plus tard.
Oui, mais Bernard-Marie Coltès aussi le disait. C'est un beau nom, l'appel de la forêt. Parce que c'est la forêt, ça peut être la forêt du chantier de combat de Négretien, ça pourrait être la forêt du Nicaragua, et c'est la forêt urbaine aussi dans la solitude des champs de coton. Et donc, faut aussi remettre ça dans un contexte, faut pas oublier qu'il naît, il grandit, il est adolescent, dans les années 60, en province, en France, où c'est compliqué d'être homosexuel. Ensuite, il vient à Paris, où évidemment, c'est pas la même chose, mais il fait plutôt, sur certains points, il se rapproche de Genet. Il est mort d'ailleurs 10 ans, jour pour jour, après la mort de Genet. Alors ça, c'est simplement une coïncidence. Mais c'est quelqu'un qui disait facilement « je suis pédé », c'est-à-dire ces gens qui reprenaient le langage de l'insulte pour le retourner et le renvoyer. On est dans la période des Copy, des Guibert, des Hockenheim, qui d'ailleurs vont tous vivre dans le même immeuble du 18e.
Et qui vont mourir de la même maladie, le sida.
Ils vont tous mourir du sida, oui. Et donc, c'est dans ces années 70 à Paris, jusqu'à au début du sida, début des années 80, où on peut être homosexuel, mais évidemment, il y a des années-lumière entre ce temps-là et le mariage homosexuel de maintenant. On ne sait pas comment il aurait réagi à ça.
Est-ce qu'il a croisé d'ailleurs Hervé Guibert, qui est quand même le grand écrivain de cette maladie? Est-ce qu'il peut y avoir des liens même entre leurs œuvres?
Le lien, c'est qu'ils font un choix radicalement différent. C'est-à-dire que Hervé Guibert, en particulier dans le protocole compassionnel et à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, il fait de la maladie son œuvre. Alors que Bernard-Marie Coltès, jusqu'au bout, sépare les deux.
Il cache même son œuvre. Presque dans son œuvre, tout peut se lire à travers l'homosexualité, mais en même temps, rien ne peut réellement se lire de cette façon-là. Tout est fait de strates, hein, et c'est beaucoup une question d'interprétation avec l'œuvre de Coltès, de ce point de vue-là.
Oui, mais personnellement, je ne dirais jamais que tout peut se lire à travers ce prisme, parce que c'est très réducteur. C'est d'ailleurs, Chérodix disait que c'était une chose qu'il ne supportait pas. Quand il y a eu dans la solitude des champs de coton, il y en a qui disaient qu'effectivement c'était une histoire de désir homosexuel. Et tout ce qu'il ramenait, soit Genet, de ce point de vue-là, soit à Tennessee Williams, il ne le supportait pas. Et on peut le comprendre. Parce que, en fait, il faisait une œuvre et il n'avait pas envie qu'on la voie à travers un seul prisme. C'était beaucoup plus large que ça.
On parle toujours du rire de Coltès. D'abord, le rire qu'il y a dans le rire de lui-même et le rire qu'il a sur ses personnages. Son rire à lui dans la vie. Et aussi du théâtre. Je fais toujours du théâtre. Comme Shakespeare, finalement. Shakespeare dit, écoutez, c'est très grave ce que je vous raconte. C'est très tragique, il y a du sang, il y a des morts, il y a le haut mal de l'existence et des pouvoirs, mais vous savez, ce n'est que du théâtre. Hein. Et quand Coltès disait, mais je voudrais qu'on rie à mes pièces, je veux être décoltérisé, je ne sais pas comment on dit, je veux être déchéroisé, il avait vraiment envie qu'on s'amuse à ses pièces, qu'on rie, et de ne pas être un auteur dit intellectuel, sombre ou méchant ou sévère. Surtout, ne me prenez pas au sérieux.
Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et Michel Piccoli qui évoquait le rire de Coltès. Il faut dire qu'il riait beaucoup. Hein. Lucien Hatoun a même dit que ce rire était le plus beau qu'il ait jamais entendu à la radio. Et c'est vrai qu'on comprend à travers ce rire que ce qui l'intéressait avant tout, malgré le désir parfois de mettre fin à ses jours, malgré la maladie, c'était la vie. C'était un homme très vivant.
Oui, parce que j'ai l'impression que là, ça dessine tout ça, un portrait un peu sombre. D'ailleurs,
voyez,
ça manque de reggae,
claire,
ça manque
justement.
Beaucoup, beaucoup de reggae, parce qu'il faudrait en entendre, puisque pour lui, toute écriture venait d'une musique, et il n'y a pas eu que le reggae, mais ça a été essentiel. Et puis, c'est aussi la musique de ces années-là, en tout cas du début des années 80.
Voilà, la musique qu'on entend en fond n'est pas particulièrement triste.
C'est quelqu'un qui aimait la vie. C'était un pessimiste qui aimait la vie.
En fait, Chéreau était un pessimiste et Coltès était un désespéré. C'est même Coltès lui-même qui l'a dit.
Non, c'est Chéreau.
Ah, c'est Chéreau. Bon.
C'est pas très Chéreau quand Bernard-Marie Coltès est mort. Il a écrit ça dans Le Monde, je crois. C'était quelqu'un... Il ne faut quand même pas oublier une chose. C'est que le mot qui revient le plus... Par exemple, dans La solitude des champs de coton, c'est le mot désir. Mmh. C'est un homme de désir. C'est un homme qui veut vivre. Quand on dit, par exemple, il a cherché sa mort, ben, comme il l'a pas cherché, il l'a rencontré, c'est autre chose. Et alors il y a, effectivement il y a eu des épisodes, des moments où il était pas bien, c'est pas le seul à qui c'est arrivé. Effectivement, il y avait probablement un côté une sorte de désespoir, mais un désespoir très joyeux, très enfin en tout cas qui se manifestait beaucoup par du rire et par énormément de désir et de plaisir. C'est pas du tout...
Et le désir de fuir à cheval très loin dans la ville, pour reprendre un autre titre de Bernard-Marie Koltès. Fuir à cheval très loin dans la ville, ça veut dire prendre de l'héroïne?
Oui, c'est le nom, c'est le nom qu'on donnait à l'héroïne. Alors ça, c'est le roman qu'il écrit avant de quitter, Strasbourg, avant de venir à Paris. Et dans ce roman, il met effectivement toute cette part un peu de un peu sombre, urbaine. Bon,
vous dites que c'est un roman. On parlera peut-être plus loin dans la semaine du genre auquel s'est donné Koltès, parce que c'est pas certain que ce soit réellement un roman. Si Brigitte Salino, c'est à la frontière des genres.
Non, il l'a voulu. En tout cas, il l'a écrit comme un roman. Comme il a écrit beaucoup plus tard le début d'un roman qui s'appelle Prologue, dont il nous reste que le prologue, mais qui sont écrits comme des romans. Ce qui peut peut-être tromper, c'est que avec Bernard-Marie Koltès, comme dans ses pièces, il y a de très longs, on dit que c'est des monologues, c'est plutôt des soliloques que des monologues. On a l'impression que c'est la même chose que dans La Fuite à cheval très loin dans la ville. Non, c'est quelqu'un aussi, c'est une chose qu'il a introduite, cette façon de laisser parler les gens, de les laisser parler très longtemps.
La question du réel et de la fiction, ça semblait très important pour Bernard-Marie Koltès. Il avait notamment un rapport au théâtre un peu particulier, parce que à la fois il disait qu'il aimait le théâtre, mais que le théâtre ça n'était pas la vie, mais que finalement, au moins au théâtre, on savait qu'on n'était pas vraiment dans la vie. Qu'est-ce que ça signifie pour lui, tout ce rapport un petit peu étrange avec le réel?
Là aussi, je suis pas sûre que ce soit le réel, c'est le théâtre. C'est-à-dire que... Bon, certains, ils se retrouvent au théâtre, ils disent « mais il faut que je parte en courant, c'est dehors qu'il faut être, c'est dans la vie ». Puis quand il est dehors, il a envie de rentrer, pas parce que le théâtre serait la vie, c'est une chose qu'il faisait éclater de rire tellement il trouvait ça ridicule quand on disait « le théâtre c'est la vie ». Mais parce que le théâtre met en scène la vie. Et cette ambivalence-là, il est vraiment pas le seul à l'avoir. Mais lui, il l'a vraiment formulé. Voilà, il l'a formulé.
Alors on...
Et c'est par ailleurs quelqu'un qui ne se nourrissait pas, qui n'allait pas, qui n'aimait pas les pots de première, qui n'aimait pas...
Qui n'était pas mondain du tout, non?
Il aimait, il y avait le travail d'écriture, il y avait sa vie, il y avait ses amis. Et... et c'est pas quelqu'un qui passait son temps dans le théâtre, comme certains qui se nourrissent du théâtre tout le temps. Ils puisaient dans la vie ce qu'ils mettaient au théâtre.
Ce serait bien de revenir un petit peu avec vous, Brigitte Salino, sur les années de formation de Koltès, parce que dans cette première émission, on s'intéresse essentiellement aux premières années. C'est quand même une formation assez solide. On ne peut pas dire que Koltès, c'était l'homme aux semelles de vent. C'est quelqu'un qui connaissait bien la littérature française. On le sait notamment par les archives de l'IMEC, puisque son frère a déposé un certain nombre de bulletins, des devoirs de français aussi, Koltès à l'Institut Mémoire de l'écriture contemporaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la formation de ce jeune homme?
Bien, il est formé à la fois tout petit par les lectures catholiques qui sont liées à la religion, à la vie paroissiale. Il est aussi, il fait du piano tout jeune, il joue de l'orgue, il joue vraiment bien. Et après, c'est une famille où on lit, où sa mère lit beaucoup. Et ensuite, il est donc au collège Saint-Clément, où il a en particulier un professeur qui va être très très important, qui s'appelle Jean Mambrémeau.
Mmh. Alors on peut redire un petit peu qui il était ?
Jean Mambrémeau, c'était donc un jésuite et qui enseignait la littérature, qui a écrit aussi à la revue Esprit.
Et aussi au Cahier du
Cinéma. Il leur disait que ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il appelait les 4000 mètres de la littérature, c'est-à-dire vraiment les plus grands. Et donc, il savait faire passer son goût de la littérature. Et il y avait aussi tout ce qui était souterrain, d'une certaine manière, dans cette éducation jésuite, c'est-à-dire le goût de la rhétorique. La rigueur, la rhétorique est pensée par soi-même. Et tout ça, on le retrouve beaucoup. C'est très, très... On voit qu'il a été formé à ça, on le retrouve dans son écriture.
Est-ce que c'est pas Mambrino aussi qui l'initie à Shakespeare ?
Ah ?
À Shakespeare ?
Oui, parce que Mambrino était... Je crois que sa mère était britannique. Et donc, il y a effectivement Shakespeare. Mais quand il est vraiment jeune, c'est Dostoïevski, c'est Conrad. Ensuite, il y aura Faulkner, qui seront très, très importants.
Il va aussi, je reviens à Shakespeare, traduire
Le
Conte d'Hiver. C'est quand même important, non, de traduire comme ça.
Ça, c'est Luc Bondy, parce que c'est quand il était à Nanterre. Il courait toujours après l'argent, parce que heureusement qu'il a eu des anges gardiens. Parce que avant, il a gagné sa vie vraiment 2 ou 3 ans avant de mourir, Coltès. Et donc, ils lui ont proposé de traduire Le Conte d'Hiver que mettait en scène Luc Bondy. Et pour lui, ça a été essentiel parce que il dit que ça lui a pris la liberté.
Est-ce que c'est à cause de l'argent qu'il décide d'être dramaturge plutôt qu'écrivain ? Parce que on a l'impression, et il le dit d'ailleurs dans des entretiens, que ce qu'il aurait vraiment souhaité, c'est écrire des romans. Alors peut-être en a-t-il écrit, hein, on en parlera
il
cette semaine.
Écrit.
Mais bon, peut-être pas au sens où on entend d'habitude le terme de roman.
Ça, moi, ça me paraît étrange, parce que si vraiment, c'était quelqu'un de déterminé, si vraiment il avait voulu être romancier, pourquoi il n'aurait pas écrit à sa mère ?
C'est une question qui se pose, je suis d'accord.
Je vais ne faire que ça, et je serai un romancier, il faudra que je me démarque, et je ne gagnerai pas ma vie à côté, parce qu'il faut que je m'y consacre entièrement. Mais, n'empêche qu'il écrit du théâtre.
Alors
moi,
pourquoi, d'après vous, même si vous avez dit que vous n'émettriez pas d'hypothèse sur la vie de Coltès aujourd'hui ?
Alors, il y a quelque chose, parfois, il y a en tout cas un moment qui est essentiel. C'est quand il est à Strasbourg, vaguement à l'école de journalisme, où là aussi, il ne laisse pas de traces. Ça, c'est merveilleux quand on fait une biographie. Il disparaît tout le temps, même les papiers disparaissent. Il n'y a quasiment rien au TNS, il n'y a rien à l'école de journalisme, il n'y a rien au PC. Ça, c'est bien. Il s'arrange.
C'est pratique, hein, bah dis donc.
Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que son amie, Elisabeth Mérand, qui, elle, était venue à Strasbourg elle voulait passer le concours pour être comédienne de l'école du TNS. Finalement, elle n'a pas eu le concours, mais elle a travaillé avec Bernard comme comédienne. Et un jour, eh bien, il y avait au TNS, il y avait Maria Cazares qui jouait Médéa dans la mise en scène de Georges Lavelli.
Et ça a été en effet...
Et là, ça a été quelque chose qui a été absolument déterminant. Et le lendemain, ils ont demandé à faire un entretien avec Maria Cazares, qui a accepté. Après, pendant des années, c'était un 15 janvier, je crois. Tous les 15 janvier, ils se retrouvaient pour fêter le... pour fêter
cette rencontre déterminante. On en parlera justement demain avec Arnaud Maizetti.
J'ai vu débarquer à l'école de Strasbourg, dont je m'occupais à ce moment-là, un jeune garçon qui sortait d'une jésuitière de Metz et qui voulait faire le cours de régie, non pas le cours d'acteur, mais le cours de régie, c'est-à-dire apprendre les métiers complémentaires du théâtre, la lumière, l'installation des décors. Il a donc fait 3 ans à Strasbourg pendant que j'en étais le directeur, et il m'a fait l'honneur, le plaisir et l'affection finalement de me montrer ses premiers écrits. J'ai tout de suite été frappé par une écriture, et puis ce contact a continué. Il a continué jusqu'à Key West à me montrer ses ébauches, et puis je tâchais de lui donner mon avis, mais c'était un avis quelquefois très aventureux, et quelquefois je me suis bien trompé. Mais enfin, il est vrai que j'ai eu la chance de le voir arriver, et ce n'est pas un mérite, c'est une chance, et c'est comme ça que je l'ai lu et que je vous ai mis en contact avec lui. On a beaucoup dit que c'était un révolté, Patrice, un peu le mot desperado, il y a de ça de vrai, mais ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'il était à l'école de Strasbourg en plein 68, et à Strasbourg, nous avions aussi des situationnistes. Et Bernard Koltès n'a pas donné une seconde, il n'y a pas cru une minute. Il a été un élève parfaitement fidèle, discipliné, correct, au milieu de toutes les tribulations qui agitaient l'école. Lui, il n'a pas bougé.
Hubert Gignoux, au micro de Lucien Atoun, Hubert Gignoux qui dirigeait le TNS et qui a fait entrer Koltès, on l'a vu d'une façon pas tout à fait régulière, puisque Koltès avait raté en réalité l'examen d'entrée.
Oui. Oui, il l'avait rentré, mais il a dit vous le prenez.
Bon, c'est le seul élève du TNS qui a oui. été, comme quoi il avait.
Mais c'est bien, c'est tout, je vous dis, tous ces casses qu'il a fait. Comme pour certains voyages, il trafique avec son frère François des traveler chèques pour avoir de l'argent. Enfin bon, il fallait prendre l'argent ou la nourriture intellectuelle et tout ce qui pouvait l'intéresser. Voilà.
Mais ce là qu'on où entend c'était. Dans cette archive, c'est l'envie de s'éloigner de la foule, des mouvements, l'envie d'être seul finalement.
Je pense pas.
Non.
C'est pas le seul, par exemple. Vous voyez, Chéreau, 68, c'était pas fondateur pour lui. Bon, Chéreau est plus âgé. Ce qui a été fondateur pour Chéreau, c'était la guerre d'Algérie. Pour Bernard-Marie Koltès, qui a toujours eu une grande conscience des autres, une conscience politique. Il a pensé qu'il était dans des périodes de formation, il savait qu'il devait aller voir le monde, mais il n'allait pas. Je pense qu'il était effectivement probablement sans grande illusion sur une révolution qui, pour lui, n'était pas quelque chose d'essentiel. L'essentiel, c'était d'aller voir le monde.
Mais est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose d'essentiel ? Est-ce que, finalement, il n'y a pas une profonde tristesse qui fait que, malgré tout, on est plutôt dans une sorte de fuite. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait évidemment une part solaire à Koltès, mais le courant souterrain, quand même, c'est autre chose, non ?
Je sais pas, il faudrait demander à un psychanalyste, mais moi, je ne peux pas vous le dire. Je suis désolée mais de vous répondre ça, mais moi, je l'ai rencontré 2 fois. Et je dois vous le dire, la première fois, c'est parce que j'avais vu sa pièce.
Laquelle ?
C'était La nuit juste avant Les forêts. Et je commençais dans le milieu, dans ce métier. Et c'était au Petit Odéon, on m'avait dit, il y a un jeune auteur, je suis allée. Et à la fin, je me suis levée parce que je me disais, mais pourquoi le théâtre parle jamais de ce qu'on vit ? Ce qui était très naïf et tout ça. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a un garçon là qui parle de ce qu'on vit ? Il en parlait autrement, mais ça correspondait. Il y avait un écho très fort. Et j'ai voulu le rencontrer. Et c'est une scène qui m'a marquée parce que c'était dans les couloirs de l'Odéon. Et puis Koltès était face à moi. Je commence à bredouiller 3 phrases. Et puis là, on voit arriver... Je voyais que son regard passait derrière moi. Et il suivait quelqu'un derrière. Et à ce moment-là, m'a doublé un jeune garçon très très joli qui ensuite a continué. Et Coltès a tourné le dos et a suivi le garçon. Je me suis dit, mais en plus, il est vraiment bien ce garçon. Au lieu de parler, il va voir qui l'intéresse. Voilà, je pense que c'était un homme qui était comme ça. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas d'avis. Je dirais pas que c'est une fuite. Je dis que c'est quelqu'un qui suivait ce qui lui semblait être bon et intéressant pour lui. Et c'est ça qui le rend intéressant.
Est-ce que c'est ça aussi qui a intéressé Chéreau ? Parce qu'il faut à un moment donné parler de la relation entre le dramaturge et le metteur en scène. Sans Chéreau, est-ce qu'il y a Coltès ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de découverte par Chéreau de Coltès, même s'il a été découvert par d'autres avant, mais il est tout d'un coup vraiment popularisé par Chéreau ?
Les textes lui viennent par Gignoux à Coltès. Gignoux, Hubert Gignoux lui donne deux textes. Il y a La nuit juste avant les forêts et il y a Combat de nègre et de chien. Et il trouve qu'il comprend rien à La nuit juste avant les forêts. Et là, Richard Fontana l'appelle parce qu'il cherchait un texte à jouer. Et Chéreau lui dit, écoute, moi j'en ai un, là je comprends rien si tu veux. Et Fontana le lit et dans La nuit il décide de le monter. C'est comme ça qu'on voit apparaître Coltès. Mais tout de suite, Chéreau, il a senti qu'il y avait quelque chose dans cette écriture. Piccoli aussi en parle très bien. Piccoli dit que quand ils ont lu pour la première fois, par exemple quand il a lu Combat, il avait assisté à la création en 1953 d'En attendant Godot, parce qu'il travaillait avec Serrault, Jean-Marie Serrault, Piccoli. Et donc il dit, ça nous dépassait, on comprenait rien, mais on comprenait qu'il se passait quelque chose. Et il dit qu'avec Coltès, quand il lit en 81, 82, quand il lit Combat de nègre, il a le même sentiment. Et Chéreau, c'est pas du tout son monde, d'une certaine manière, mais il y a quelque chose qui l'attire et dont il sent et qu'il dit faut aller découvrir.
C'est vraiment pas de son monde à Chéreau, quand même.
Il y a quelque chose qui devait lui correspondre profondément, mais c'était une écriture comme il n'en avait pas vu et qu'il fallait aussi déchiffrer. Et quand on parle, quand là on entendait Michel Piccoli disant Coltès disait je dois faire rire, il s'est passé entre Coltès et Chéreau, ce qui s'est toute proportion gardée, comme le disait Chéreau, ce qui s'était passé entre Stanislavski et Tchekhov. Tchekhov disait toujours, mais ça doit être drôle. Or, quand il y a vraiment quelqu'un qui arrive et qui écrit comme personne d'autre n'a écrit, et qu'on doit d'abord présenter son œuvre, nécessairement, c'est la partie la plus sombre. Après, il faut du temps pour qu'on puisse sourire de ses œuvres. Mais donc, c'était quelque chose qui débordait, qui les dépassait, et il sentait évidemment qu'il y avait une écriture tout à fait exceptionnelle et aussi des thèmes tout à fait exceptionnels.
Je ne suis pas l'auteur de la metteur en scène, pas plus qu'il n'est le metteur en scène de mes pièces systématiquement. Il n'y a aucun engagement de notre part. Mais il y a à chaque fois, moi, le désir de montrer à lui en premier une pièce, et lui m'a toujours dit oui. Pendant longtemps, moi, je lui proposerai la première lecture de mes pièces. Ce qui ne veut pas dire qu'il est forcé d'accepter et que c'est un choix à chaque fois.
Oui, n'empêche que c'est toujours le même choix.
Ben oui. En ce qui me concerne, oui, parce que je le préfère à tout autre pour le moment. Donc, c'est une forme de fidélité intellectuelle que je trouve importante, mais pas contraignante.
Alors, vous pratiquiez avec Chéreau quelques 5 ou 6 ans, et en réalité, vous vous connaissez très peu.
Oui, assez peu comme personne. Mais ça dépend, je ne sais pas, il y a tellement de manières de connaître les gens. Si, je le connais, mais par le moyen du théâtre, qui est une manière très limitée de connaître les gens. Oui. Relativement limité, mais tous les moyens sont limités. Quand je lui montre une pièce, c'est quand même une pièce, je fais une effraction moi-même, sur moi-même. Donc de toute façon, il en connaît un bout, et quand il me met en scène, il fait la même chose. Donc c'est par ces moyens-là, mais c'est pas dans le rapport quotidien, sûrement pas. Thank you.
parce que simplement, après ce passage, on peut dire aussi que Coltès voulait que ce soit Chéreau parce qu'il avait vu la dispute.
Mais quand
sa
même,
mise en scène de la dispute
Strasbourg,
qui avait tellement marqué.
Il avait expliqué à ses amis, moi je serais monté par Chéreau, alors qu'à l'époque il était très peu connu. C'était presque totalement un inconnu d'ailleurs. Et ses amis en souriaient un petit peu de cette idée qu'il serait monté un jour par Chéreau. Et pourtant, il y est... parvenu, donc c'est quand même qu'il y a un espèce de lien subliminal entre eux, quoi qu'en dise l'un et l'autre.
C'est-à-dire qu'il va à Paris pour voir la dispute. La légende dit qu'il l'aurait vu 6 fois. Bon, ça c'est bien pour les légendes. Et il se dit, c'est là qu'on voit quelqu'un, il y a des gens qui se démarquent, parce que voilà, il y en a un qui va voir la dispute et qui se dit, non seulement je vais écrire, mais je serai monté par lui. Et il y arrive, parce qu'il travaille et qu'il a le talent. C'est ce qui fait la différence avec 500 ou 600 autres personnes dans une salle. Ben voilà, ça se fait comme ça.
Alors il va y avoir une dispute quand même entre les deux. Ça va pas très 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 bien se terminer quand même leur histoire. Vous avez parlé du différent sur la question de l'humour. Mais il y a aussi un différent sur la question de la couleur de peau de l'acteur qui doit jouer dans la solitude des champs de coton. Vous pouvez nous raconter cette histoire, Brigitte Salino?
Oui, parce que Bernard-Marie Coltès mettait toujours des noirs.
Il le disait. C'était pas toujours explicite.
Ben, combat de nègres et de chiens. D'abord, il met de nègres en plus. Et de sa première pièce.
Mais dans Key West, par exemple.
Dans Key West, il n'y a pas vraiment de noirs, mais il y a un asiatique. Et puis, il y a une vieille indienne jouée par Maria Cazares qui finit en parlant le Quechua. Mais. Donc, dans la solitude, c'est vraiment entre un noir et un blanc. Ça a été créé par Laurent Mallet et Isaac de Bancolé. Il y avait une reprise, en résumé, Isaac de Bancolé, on lui proposait un film très important.
Chocolat, de Claire Denis.
Et il trouvait pas, Chéreau trouvait pas, Laurent Mallet lui dit « Pourquoi tu joues pas ?» Et Chéreau joue, et il joue avec un plaisir fou. Coltès est absolument furieux. Parce qu'il supporte pas, parce qu'il a écrit justement pour quelqu'un de noir, il ne supporte pas. Et puis finalement, parce qu'il y a plein d'épisodes où il va pas le voir, et un jour il retourne le voir, et après il dîne et il lui dit écoute, je peux pas t'en vouloir pour 4 raisons. Fais pas te reprocher toute ta vie de pas être noir. Quand tu joues, on entend le texte. Troisième point, c'est les gens rient. Quatrième point, c'est complet. Mmh. Il a toujours eu beaucoup de... Il voulait que son théâtre... Il n'avait pas envie de faire un théâtre confidentiel. C'est pas quelqu'un qui disait « je m'en fiche » s'il y a 4 spectateurs. Il s'en fichait pas. Il avait envie qu'il y ait du monde. Donc les 4 points comptent. Alors on a retenu effectivement la première phrase. « Je vais pas t'en vouloir toute ta vie de ne pas être noir. » Patrice Chéreau disait bon, faut pas oublier qu'il m'a dit ça un jour parce qu'il était bien luné. Et puis il y avait cette relation entre eux, enfin cette estime.
En tout cas, c'est une volonté très claire de la part de Coltès de faire monter sur scène, et c'est des problématiques qui sont au fond très actuelles. Il était assez en avance quand même, de faire monter sur scène des exclus, des minorités. Et de ne pas transiger justement sur, ben voilà, par exemple, la couleur de peau.
Mais oui, depuis très, très tôt. Très tôt, il naît dans une ville, Metz, l'étymologie c'est métisse, alors bon, on ne va pas aussi faire d'analyse sauvage. Il s'intéresse, tout un imaginaire qui se développe dans les familles catholiques, quand il y a les missionnaires qui racontent des histoires, et puis toutes les...
Et les petits objets aussi qu'il aimait, bon, les têtes d'obsidienne, les bracelets africains.
Il y a ensuite ce désir qu'il a, et il va en Afrique, et puis en plus il va au Nigeria, c'est Lagos, c'est à ce moment-là la ville la plus dangereuse du monde, et puis ensuite il va au Guatemala, où il y a la guerre civile, et puis... Bon. Et il veut que ces gens soient sur scène, parce que là aussi, il faut insister, c'est pas simplement quelqu'un qui sera à la marche comme ça, c'est quelqu'un qui a une vraie conscience politique.
Et on continuera d'en parler tout au long de cette semaine dédiée à Bernard-Marie Koltès. Merci beaucoup Brigitte Salino. Je rappelle que vous êtes critique de théâtre au journal Le Monde, autrice d'une biographie sur Koltès publiée chez Stock en 2009. Tout de suite la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cette chronique, elle vous est proposée aujourd'hui par Étienne de Montetit, directeur du Figaro littéraire. Bonjour Étienne.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être avec nous. Vous restez dans l'univers du théâtre, puisque vous venez nous parler aujourd'hui d'un texte de Yasmina Reza.
Oui, Musset appelait ça le théâtre dans un fauteuil. Autrement dit, un texte conçu pour la scène, mais qu'on peut lire soi-même en étant à la fois l'acteur, le metteur en scène et pourquoi pas le décorateur. Et c'est le plaisir qu'offre ces jours-ci le livre de Yasmina Reza, Anne-Marie la beauté, avant qu'il ne soit joué au printemps. Le rideau s'ouvre sur Anne-Marie Mille, une ancienne comédienne. Tendons l'oreille.
Alors, qu'est-ce qu'on entend ?
Mais on entend un monologue. Anne-Marie reçoit une journaliste. Pour parler d'elle, ou d'une pièce qu'elle jouerait, non, terrible loi médiatique, elle est sollicitée pour parler d'une autre, de Gisèle Fayolle, qui vient de mourir. Gisèle, son amie, sa rivale. On devine que Gisèle a eu une toute autre carrière qu'Anne-Marie. Elle avait une loge, répète celle-ci. Elle a joué, peut-être même triomphé, dans Ondine, Bérénice, Don Juan, Partage de Midi. On lui a prêté une liaison avec Delon, Bergman, bref, une star. Alors on attend qu'Anne-Marie rende hommage à la défunte, mais ce n'est pas si facile. Alors elle prend un grand ton, faussement louangeur, faussement compassionnel, redoutable. Elle dissimule sous ses compliments ses désillusions, les petites jalousies qui la rongent. Elle manœuvre à cause de vilainie savamment distillée. Je cite, « À mon avis, elle ne lisait pas les pièces en entier, même celles qu'elle jouait. Bérénice, elle n'avait lu que ses scènes. » C'est d'elle-même qu'Anne-Marie brosse un portrait. Gigi est un miroir d'où émane une belle lumière, mais qui projette aussi une ombre sur sa morne existence. Le grand appartement de Gisèle est opposé à son cagibi, je cite encore. « Mais vous savez, madame, un grand appartement où il n'y a plus de bruit, où les objets se pétrifient. » Anne-Marie met du phare sur sa déception. Elle décrit des petits bonheurs qu'elle cherche à faire rivaliser avec la gloire de Gigi. Pour un peu, elle jouerait la magnanimité. Ce procédé n'est pas le seul apanage des comédiens, ou alors tout le monde l'est un peu. Anne-Marie émeut souvent, elle fait sourire de commisération. Parfois même on rit aux éclats. Le récit des obsèques de Gigi, où le secrétaire d'État à la culture est arrivé, dit Yasmina Reza avec le masque de l'affliction, illustre drôlement les liturgies contemporaines de la mort, sans lustre et surtout sans métaphysique.
Bon alors la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce un bon Yasmina Reza ?
On verra bien ce que ça donnera sur scène, mais à la lecture on savoure le portrait d'Anne-Marie réalisé au pinceau fin par petites touches. Une image par-ci, une remarque qui dit tout. L'amitié Anne-Marie-Gisèle est résumée d'un mot. Anne-Marie dit « c'est moi qui me déplaçais ». Sa vie avec un brave homme de mari. Il me racontait ses expertises termites, on jouait au Scrabble. Depuis à Arles, le dieu du carnage, où heureux les heureux, le théâtre de Reza ne laisse jamais de nous enchanter. On en savoure à chaque fois la subtilité, l'ironie rosse, les accents mélancoliques. Elle excelle dans le style oral, constitué non pas avec des mots jetés à la diable, mais au contraire, admirablement disposée, l'air de rien. Reza pratique l'art du naturel savamment étudié, elle reconstitue une voix. De bout en bout, dans ce livre, on entend celle d'Anne-Marie, on l'écoute et on l'aime.
Anne-Marie, la beauté de Yasmina Reza est publiée aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Étienne de Montetit du Figaro littéraire, à très bientôt. C'était la compagnie des œuvres Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Olivier Arnay. Demain, on continue à évoquer Koltès avec le parcours de l'œuvre que nous ferons avec Arnaud Maizetti.